Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ces conférences pour leur invitation. Donc, dans cet exposé, en fait, qui est consacré à la convection dans le manteau de la Terre et des planètes telluriques, cet exposé est divisé en deux parties. Dans une première partie, je vais m'attacher à décrire la circulation convective précisément, vous montrer en quoi cela consiste, quelle est la différence entre l'advection, la conduction, le mélange des deux, comment on génère la convection, quelles sont les différentes figures, la structure. Donc, c'est un peu plus théorique, descriptif, ça ressemble un peu plus à de la mécanique des fluides qu'à de la géophysique. Et dans la seconde partie, on regardera quelles sont les applications, en particulier sur des objets tels que la Terre, Vénus, un petit peu Mars, dont je parlerai, Io, satellite de Jupiter, et surtout comment faire pour, dans ces planètes, ouvrir et regarder comment fonctionne la convection. Je vais partir d'une cartographie du flux de chaleur que l'on vous a déjà présenté hier, je crois que c'était Philippe Gillet. Je vais m'en servir uniquement pour vous dire que d'abord il y a un flux de chaleur qui sort de la Terre. Donc l'intérieur est beaucoup plus chaud que l'extérieur. Ensuite, que le flux de chaleur est très important au niveau des dorsales et qu'on a des valeurs moyennes à l'intérieur des plaques. À l'intérieur des plaques, on arrive à expliquer à peu près correctement ces valeurs moyennes du flux de chaleur. Proche des dorsales, il faut faire intervenir d'autres types de circulations, comme par exemple les circulations hydrothermales. Ce à quoi je vais m'attacher, c'est la forme intégrale sur la surface de la Terre de ce flux de chaleur, qui est de l'ordre de 44 terawatts, c'est-à-dire 44 10 puissance 12 watts. Si vous regardez un petit peu les valeurs en milliwatts par mètre carré, ce sont des valeurs qui sont quand même assez faibles. Si vous prenez votre maison, votre appartement, vous intégrez sur la surface, vous apercevez que c'est uniquement vos appareils électroménagers. Et ça fait fonctionner toute la Terre. Ça fait fonctionner la géodynamo, ça fait fonctionner la convection dans le manteau. Ce sont des flux de chaleur qui sont quand même donc assez faibles. Quelle est l'origine de ces 44 terawatts? Donc je vous ai expliqué que la Terre était chaude parce qu'on a un flux de chaleur positif. Une autre façon de voir que la Terre est chaude, c'est le volcanisme. Alors, on a différents types de volcanisme aujourd'hui et dans le passé. On a le volcanisme sous les dorsales océaniques, ici, ou dans la dorsale dans l'Atlantique. On a le volcanisme de points chauds sous Hawaï, que l'on ne voit pas, je crois, qui est ici, l'Islande. Ou alors, dans le passé, on a eu aussi du volcanisme avec des grandes étendues de lave, comme les trappes du Deccan. Donc, une Terre chaude. Comment se font ces transferts de chaleur à l'intérieur de la Terre? Tout d'abord, quelles sont les sources de chaleur? On a différentes sources de chaleur. Tout d'abord, on a l'énergie qui a été stockée lors de la formation de la Terre. C'est l'énergie primordiale. On comprend bien qu'il y a eu de telles énergies qui ont été mises en jeu pour fabriquer la Terre, pour différencier le manteau, le noyau, que la Terre a chauffé. On a peut-être même eu un océan de magma, probablement même eu un océan de magma. Donc une Terre partiellement fondue. Ensuite, on a eu des éléments radioactifs à courte période. Aujourd'hui, il existe toujours des éléments radioactifs qui continuent à chauffer la Terre, c'est l'uranium, le thorium et le potassium par exemple, et on arrive à estimer, ce sont des éléments radioactifs à longue période de vie, on arrive à estimer leur contribution. Sur les 44 terawatts, ils seraient responsables de 20 terawatts, c'est-à-dire la moitié du flux de chaleur que l'on observe intégré à la surface de la Terre. Comment est-ce que l'on sait cette valeur, on connaît cette valeur de 20 terawatts? Bien, si on prend une roche à la surface de la Terre, un bout de caillou, on arrive à déterminer la quantité d'éléments radioactifs qu'il y a à l'intérieur, on connaît la décroissance, donc on est capable d'estimer le flux de chaleur. Simplement, on n'utilise pas cette méthode parce qu'elle ne tient pas compte d'un élément important, c'est l'histoire du caillou. Lorsque vous avez un caillou qui fond, partiellement, les éléments radioactifs passent préférentiellement dans le jus. Si vous ressortez ce jus qui cristallise à la surface, vous fabriquez de la croûte, vous avez donc concentré dans la croûte les éléments radioactifs et appauvrit la source en éléments radioactifs. Donc, il est difficile d'estimer quelle est la valeur moyenne pour la Terre en éléments radioactifs. Alors, les minéralogistes et les géochimistes nous apportent une réponse à cette question. Il suffit de trouver un caillou qui soit représentatif de ce qu'a été la composition chimique à l'endroit où s'est formée la Terre, il y a 4,6 milliards d'années. Ce sont les chondrites. Ce sont des météorites, en particulier les chondrites. Ces chondrites, on arrive à estimer donc la teneur en éléments radioactifs, uranium, thorium, potassium, etc. Et on arrive à cette valeur de 20 terawatts. Simplement, c'est une valeur qui est extrêmement discutable, parce que qui me dit qu'à l'endroit où se sont formés ces météorites, il y avait la même composition chimique à l'endroit où s'est formée la Terre? Ces météorites, on les trouve aujourd'hui essentiellement, ce sont des astéroïdes qui sont sur la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter. L'explication, c'est que lors de la formation donc, des planètes du système solaire, Jupiter étant la plus grosse des planètes, les forces ont été telles qu'une dixième planète n'a pas pu être créée sur l'endroit où on trouve aujourd'hui les astéroïdes. Donc ce n'est pas du tout au même endroit que la Terre a été formée. Qui me dit que c'est la même composition chimique? Pourtant, c'est généralement ce qui est admis, donc 20 terawatts. Les autres sources de chaleur, eh bien, par exemple aujourd'hui, on est en train de cristalliser Le noyau de la Terre, c'est une réaction qui va dégager de la chaleur. Simplement, c'est une réaction qui est extrêmement faible, donc je les ai mis uniquement dans les ordres. Donc on a vu qu'on avait une Terre chaude, un flux de chaleur vers l'extérieur, des sources de chaleur dans la Terre. Comment se font les transferts de chaleur dans la Terre? Pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder comment est constituée la Terre. Donc, vous savez qu'elle est constituée en différentes couches, d'où cela vient. Et bien, quand vous avez un séisme d'origine naturelle ou artificielle, l'explosion d'une bombe atomique, qui est très pratique parce qu'on connaît exactement l'heure où ça a été déclenché, c'est au moins un avantage, vous avez plusieurs types d'ondes qui sont générées. Vous avez tout d'abord des ondes de volume qui se propagent dans la totalité de la Terre, on verra une petite exception pour le noyau, et des ondes de surface qui se propagent uniquement en surface. Alors, parmi les ondes de volume, vous avez les ondes P parce que dans un sismogramme, elles arrivent en premier, c'est une version simplifiée d'un sismogramme. Les ondes S, parce qu'elles arrivent en second. Les ondes P, ce sont des ondes de compression qui se propagent de cette manière-là, compression-extension. Les ondes de cisaillement qui se propagent comme ceci. La particularité des ondes de cisaillement, c'est qu'elles ne se propagent pas dans les liquides. On ne peut pas cisailler un liquide. Ensuite, vous avez les ondes de surface, donc l'onde de Love qui est une onde de cisaillement, mais le cisaillement ne se fait pas dans le même plan que l'onde S. Et ensuite, l'onde de Rayleigh, qui est une sorte de vague, mais je ne parlerai pas de ces ondes-là. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour ces ondes P et ces ondes S. Il faut imaginer que c'est un problème d'optique. Quand vous avez un rayon lumineux qui arrive sur un milieu, sur une interface avec un indice optique différent, il y a réflexion et réfraction. C'est la même chose pour les ondes P et les ondes S. Lorsqu'elles arrivent, elles sont issues d'un séisme, lorsqu'elles arrivent sur des interfaces, elles sont réfléchies et réfractées. Il suffit de collecter l'ensemble de ces ondes et de chercher comment positionner les interfaces pour rendre compte de l'endroit où on observe ces différentes ondes. Alors en réalité, il faut tenir compte aussi d'un autre phénomène qui sont les modes propres de vibration de la Terre. Lorsque vous avez un séisme, c'est un peu comme si vous sonnez une cloche. La Terre se met à vibrer selon différents modes. On arrive à mesurer ces différents modes. Ça permet de lever certaines incertitudes quand on inverse ce problème. Et donc, on arrive à localiser différentes interfaces. C'est le fameux modèle PREM, que l'on doit à Jevonski et Anderson en 1981, et qui permet de regarder l'évolution des ondes P et des ondes S dans le manteau, mais aussi de la densité et d'autres variables, telles que le champ de gravité, l'amplitude du champ de gravité, G, la norme du vecteur, le module d'incompressibilité, le coefficient de dilatation thermique, etc. Et ça permet de différencier différents volumes. Tout d'abord, un volume en surface qui est la croûte, ensuite un manteau, pardon ici, qui est divisé en deux parties, le manteau supérieur et le manteau inférieur, un noyau externe et une graine. Le noyau externe avec une particularité, si vous regardez la propagation des ondes S en fonction de la profondeur, c'est la profondeur ici, donc là vous êtes en surface et là vous êtes au fond, vous êtes au centre de la Terre, et bien vous voyez les ondes S qui ne se propagent pas dans le noyau externe parce qu'il est liquide, et elles apparaissent dans la graine. Donc ces interfaces se caractérisent généralement par des sauts de la densité, des variations des ondes sismiques, donc toutes les valeurs varient abruptement. Ce sont des discontinuités. Et ça permet de construire de cette manière-là une Terre à une dimension, où les valeurs varient uniquement avec la profondeur, et donc la Terre est constituée de couches concentriques. Et si vous prenez par exemple la densité, eh bien à 2000 km de profondeur, elle vaut cette valeur-là, ça veut dire qu'on a fait une moyenne sur une sphère. Il n'y a plus du tout de variation latérale de la densité, c'est représenté uniquement par un seul point. Or, comme nous allons voir, le mécanisme de la convection, ce sont les variations latérales de densité et non pas les variations avec la profondeur. Donc, maintenant, on va s'intéresser uniquement au manteau de la Terre, donc les 2900 km que l'on a sous les pieds. L'information importante, c'est qu'on a des ondes S, donc le manteau de la Terre est essentiellement solide. Il est uniquement fondu à certains endroits proches de la surface, sous les volcans, sous les dorsales océaniques. Mais pour l'essentiel, ce sont des roches solides. Donc avec à l'intérieur des éléments radioactifs et un flux de chaleur en surface, donc des transferts de chaleur à l'intérieur de ce manteau. Comment se font les transferts de chaleur pour une roche solide? Eh bien, ils sont de deux types. On a deux processus. Le premier, c'est la conduction de la chaleur. Le deuxième, c'est l'advection de la chaleur. Alors, en premier, je m'attarde sur la conduction. La conduction a deux composantes. Une composante que j'ai appelée réseau. Il faut bien comprendre que si vous avez un réseau cristallin, la température, ce n'est rien d'autre qu'une énergie de vibration. Les atomes bougent au sein de ce cristal. Il y a des lésions atomiques, et donc si un atome bouge, il va transmettre ses vibrations aux autres atomes, et ainsi de suite, on va avoir propagation de ces vibrations. Vous imaginez bien que si vous prenez une barre de fer, vous chauffez au chalumeau un endroit, eh bien, vous allez créer de l'agitation thermique, et petit à petit, cette agitation thermique va se propager, donc vous avez une diffusion de la chaleur, toujours du chaud, vers le froid. La deuxième composante, et je ne m'attarderai pas dessus, trop là-dessus, je vais expliquer pourquoi, c'est la composante radiative. C'est une propagation de la chaleur par onde électromagnétique. Simplement, on considère que pour les roches du manteau, cette contribution est négligeable. Même si aujourd'hui, ben, c'est discutable. Il faut savoir que ces composantes réseau et ces composantes radiatives, donc on conduit à des coefficients de diffusion, qui est la conductivité, et qui varie en fonction de la température et de la profondeur. Ça permet d'exprimer le flux de chaleur en fonction d'une loi, qui est la loi de Fourier, c'est-à-dire que le flux de chaleur est proportionnel aux différences de température moyennant un coefficient, qui est le coefficient de conductivité. Donc ça, c'est la première contribution au transfert de chaleur, c'est la conduction de la chaleur par diffusion. La deuxième contribution au transport, c'est l'advection de la chaleur. Alors je vous ai représenté ici, c'est le moment de verdure dans l'exposé, une petite rivière. On pourrait prendre l'exemple d'un fleuve, c'est un fluide. Il faut bien imaginer qu'au sein de l'eau, vous avez des différences de température entre la surface, le fond, entre les côtés. Vous avez des variations de la température au sein de l'eau. Bien, ces variations de température, elles sont transportées par le mouvement de l'eau qui s'écoule sous son propre poids, en direction des pentes plus basses. C'est un transport de la chaleur, de la même manière que si je prends quelque chose de chaud, je le transporte. D'accord ? Donc, il faut bien imaginer aussi que si vous avez un endroit ici qui est beaucoup plus chaud et qui est transporté, en même temps, vous avez de la conduction de proche en proche. Vous avez les deux phénomènes qui agissent. Et la convection, bien, par construction, c'est le mélange des deux, avec une particularité, c'est que, comme on va le voir, l'advection doit être due aux variations de température, et je vais expliquer pourquoi. Mais la convection, c'est le mélange des deux. Les deux phénomènes, conduction et advection de la chaleur, se produisent rigoureusement en même temps. Simplement là, je viens de faire un pas de géant parce que... Oups, là, je me suis trompé. Je vais revenir en arrière. Voilà. Pardon. Ici, je vous ai présenté un liquide en écoulement et je vous ai présenté précédemment que pour la Terre était essentiellement solide, de la roche dure. Et là, c'est un liquide, c'est un fluide, au même titre qu'un gaz, qu'un plasma, c'est-à-dire un ensemble, un gaz d'ion avec des particules à l'intérieur. La Terre se comporte-t-elle comme un fluide? Enfin, les roches du manteau se comportent-elles de manière fluide? Peut-il y avoir un écoulement des roches? On imagine bien qu'il y a de la déformation, mais un écoulement. Eh bien, voici un exemple d'écoulement solide. Vous avez un glacier. Donc, je vous ai représenté ici de manière schématique, ce qui est représenté ici pardon, de manière schématique, eh bien, c'est la formation du glacier. Cette partie-ci, qui est une partie d'écoulement, est la zone d'ablation du glacier. Et ici, vous avez un écoulement de la glace, qui, je rappelle, quand même, est un solide, du haut vers le bas, sous l'effet de son propre poids, si bien qu'il y a eu des exemples d'hélicoptères crachés ici, que l'on a retrouvé quelques années plus tard, 1000 mètres en dessous, 1 km plus bas. On a donc bien un écoulement solide. Ce n'est pas un glissement du glacier, c'est un écoulement du glacier. Vous avez d'autres exemples dans les cimetières, les très vieilles plaques de marbre. Si vous regardez la tranche, elle est plus fine en haut qu'en bas. Vous avez eu un écoulement du marbre vers le bas. Un autre exemple, les vitraux dans les très vieilles églises. Ils se décèlent en haut. Pourquoi ? Vous avez un écoulement du verre vers le bas. Alors, quelle est la différence entre ce solide, les roches du manteau, et le liquide que je vous ai présenté, l'eau ? Ce sont les vitesses. Les vitesses caractéristiques d'écoulement de l'eau, on va parler en mètres par seconde. Le glacier, on va parler en dizaines de mètres par an, voire centaines de mètres par an. Et pour les roches du manteau, et une bonne indication, c'est la technique des plaques, on parle en centimètres par an. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes échelles que pour un liquide. La roche se comporte comme un fluide, mais il faut pour cela des échelles de temps qui sont des échelles de temps géologiques. Donc il faut beaucoup de temps pour pouvoir transporter les roches. Pourquoi cela ? Eh bien, vous imaginez bien que si vous prenez un verre d'eau, votre cuillère, vous tournez, en exerçant une force, vous tournez très facilement. La diffusion de la quantité de mouvement est faible. La viscosité, on va parler de viscosité, qui est la diffusion de la quantité de mouvement, elle est faible, elle vaut 1. Vous prenez maintenant un verre de miel, vous exercez la même force, ah, c'est déjà un peu plus, vous tournez beaucoup plus lentement, la viscosité est beaucoup plus élevée. Maintenant, vous prenez un verre, vous mettez votre cuillère, vous coulez un bloc de roche dedans, vous exercez une force, eh bien, rendez-vous dans 100 ans, et là, vous aurez tourné un petit peu. Vous aurez pris la poussière aussi en même temps. Alors, on va regarder un petit peu plus précisément ce que c'est que la convection. Donc, on voit que c'est... J'insiste, les roches solides se comportent comme un fluide à des échelles de temps, sur des échelles de temps très importantes, de la même manière qu'un liquide. Alors, ceci est une vision schématique, donc on a un système, c'était un aquarium, ou c'est un verre d'eau dans lequel vous avez de l'eau, ou un liquide, un fluide de densité ρ1. Vous avez à l'intérieur une bulle, un glaçon, de densité différente, donc on va dire plus légère, donc la densité plus faible. Que se passe-t-il? Si vous lâchez, le glaçon il remonte par la force d'Archimède. Il arrive à remonter parce qu'il arrive à vaincre la résistance du fluide. Vous comprenez très bien que quand vous tournez votre cuillère d'eau dans le miel exerce une force visqueuse dessus, qui est une force de résistance qui s'oppose au mouvement. Donc, le glaçon arrive à remonter parce qu'il arrive à vaincre la force visqueuse, par la force, grâce à la force d'Archimède. Et l'instabilité de Rayleigh-Bénard, c'est-à-dire la convection, eh bien, c'est tout simplement quand la force de résistance, c'est la force visqueuse, parce que vous pouvez avoir d'autres forces de résistance, comme par exemple une tension de surface, on parlera d'autres types d'instabilité, quand la diffusion de la chaleur, je vais expliquer cette partie-là, diminue les différences de température. Maintenant, imaginez que vous avez, là j'ai pris l'exemple de l'eau et d'un glaçon, vous prenez un seul fluide, la roche. Ceci, il n'y a plus que de la roche. Cette bulle-là, c'est un endroit où la roche est un peu plus chaude. Que se passe-t-il? Quand vous chauffez votre roche, elle se dilate. La masse se conserve. Donc, la masse volumique ou la densité va diminuer. Si je chauffe, c'est plus léger. Si je refroidis, c'est plus lourd. Donc, si cette région-là est plus chaude que la région autour, cette bulle-là, elle est plus légère. Et donc, elle a envie de monter, sous l'effet de la force d'Archimède. Mais il ne faut pas oublier que vous avez en même temps un effet de compétition avec la diffusion. Parce qu'en même temps qu'elle a envie de monter, elle diffuse la chaleur. Et si elle diffuse la chaleur, la température diminue. Donc la force d'Archimède aussi diminue. Donc vous avez un endroit chaud qui a envie de monter, qui doit vaincre la force de viscosité qui s'oppose au mouvement et qui en même temps diffuse sa température, qui est un effet contraire aussi, puisque ça va diminuer les variations de densité, ça va empêcher la bulle de monter. Ça, c'est la convection. Vous avez les deux phénomènes de conduction, d'advection de la chaleur, et en même temps, vous avez une force d'Archimède pour essayer de vaincre la force de viscosité. Alors, juste un petit commentaire sur les variations latérales de densité. Donc là, on voit que ça peut se mettre en mouvement parce qu'on a des différences horizontales de densité. Imaginez maintenant un fluide en deux couches qui soit parfaitement stratifié. Une couche moins dense en dessous avec une couche plus dense au-dessus. Donc un système qui a envie naturellement de se retourner. Mais si l'interface est parfaitement horizontale, c'est-à-dire en tout point perpendiculaire à la gravité, il n'y a aucune raison pour que ça se retourne. Si maintenant je tape, je crée des ondulations sur l'interface, je crée des variations latérales de densité, à ce moment-là je peux retourner le système. On va regarder maintenant quelles sont les différentes formes que peut prendre la convection. Donc je viens de vous dire que pour qu'il y ait mouvement, il faut que la force d'Archimède, parce que c'est plus léger ou c'est plus lourd, arrive à vaincre la force de résistance, la force visqueuse. On peut exprimer ces différentes formes et arriver à un autre type de relation, qui est une relation entre deux nombres, un nombre de Rayleigh, RA, et un nombre de Rayleigh critique. Alors ce nombre de Rayleigh, c'est un nombre sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité. Ce nombre de Rayleigh, il est caractéristique de mon système. Pourquoi? Il va dépendre d'alpha. Alpha, c'est le coefficient de dilatation. En Kelvin, l'unité, ce sont des Kelvin moins 1. Il va me dire de combien, en gros, ça se dilate en fonction de la température. Rho, la densité. G, la gravité, qui intervient dans la force d'Archimède. Delta T, c'est une échelle de température. Ça me donne, on va voir que ça me donne les variations de densité en fonction de la température. D, dans le modèle précédent, c'était, par exemple, la hauteur de mon système. On va voir que la hauteur, les dimensions sont importantes. Kappa, c'est la diffusivité thermique, c'est-à-dire c'est la conduction de la chaleur, caractéristique. Eta, c'est la viscosité. Qu'est-ce que l'on reconnaît? Donc c'est vraiment caractéristique de mon système. J'ai la gravité, les variations de température, la densité de mon fluide, la hauteur du système que j'étudie. Alors ce que l'on peut voir dans ce nombre, c'est que vous avez un produit entre alpha, rho, delta T. Alpha, rho, delta T, c'est les variations de densité à cause de la température. Multiplié par G, j'obtiens la force d'Archimède. Et au dénominateur, qu'est-ce que l'on retrouve? La diffusivité qui s'oppose, on a vu, qui va diminuer les différences de densité et donc diminuer, qui ne favorise pas la convection. Et on retrouve la viscosité qui, elle aussi, qui intervient dans la force visqueuse. Et ensuite, de l'autre côté, donc, on a le nombre de Rayleigh critique qui est déterminé analytiquement. On connaît rigoureusement ces valeurs. Alors, on verra qu'il peut y avoir deux valeurs. Donc, pour que la convection puisse démarrer, il faut que la force motrice soit supérieure à la force visqueuse, ce qui s'exprime par un nombre de Rayleigh supérieur à un nombre de Rayleigh critique. Si je peux dire dans la Terre, le nombre de Rayleigh est tant, Je sais si ça convecte ou si ça ne convecte pas, si ça peut convecter ou si ça ne peut pas convecter. Un petit commentaire sur ces deux nombres de relais critiques, ça va dépendre, en fait, des conditions aux limites. Donc imaginez que j'essaye de faire convecter ce système. On comprend bien que si le fluide est attaché et ne peut pas glisser correctement sur les surfaces, il va falloir exercer des forces plus importantes pour arriver à le mettre en marche. Conséquence, on a un nombre de relais critiques plus élevé. Si par contre le fluide peut parfaitement glisser sur toutes mes surfaces, c'est très facile de le mettre en mouvement, le nombre de relais sera beaucoup plus faible. Par exemple, ici, on parle de free slip, il sera de 657. Bon, peu importe. Donc, on verra dans la seconde partie de l'exposé comment calculer le nombre de relais pour la Terre. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques expériences de convection. Alors, il va y avoir un mélange d'expériences numériques, celle-ci, et d'expériences analogiques, que je détaillerai un petit peu, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vais partir d'un système que je vous présente ici, qui est une boîte, comme cela. Alors, c'est une boîte que, il faut bien imaginer que c'est une boîte que vous regardez par le dessus, d'accord ? La surface bleue, c'est la surface supérieure. La surface jaune, c'est la surface d'en dessous. Pourquoi ces couleurs ? Parce que en bleu, c'est une surface froide. En jaune, c'est une surface chaude. Donc j'essaye, et sur les côtés de ma boîte, il n'y a pas de transfert de chaleur possible. Donc ce que j'essaye, j'impose un transfert de chaleur du bas vers le haut. C'est la seule possibilité. La chaleur va rentrer par le bas et ressortir par le haut. Et la conservation me dit que tout ce qui rentre en bas doit ressortir en haut. Maintenant, je vais me placer à un état d'équilibre conductif, c'est-à-dire je me place pour un nombre de relais inférieur au nombre de relais critiques. Dans ce modèle-là, je peux, c'est un bouton, je tourne le nombre de relais. Que se passe-t-il ? Eh bien, on a un état conductif, c'est-à-dire que... Alors, ce que je représente ici, ce sont des isothermes. Donc, en bleu transparent, c'est une isotherme plutôt froide. En rouge, c'est une isotherme plutôt chaude. Eh bien, toutes mes isothermes, les surfaces sur lesquelles la température est constante, sont toutes des plans horizontaux. Ici, vous avez une coupe verticale. Eh bien, vous voyez, c'est en fait ces différents plans horizontaux dans lesquels la température est constante. Ce que je montre là, c'est une variation de la température en fonction de la profondeur. Donc 1, c'est la surface, 0, c'est le fond de ma boîte. Et je fais des moyennes sur les plans horizontaux. Ce que je vois, c'est que j'ai une relation linéaire. Au fur et à mesure que je descends dans ma boîte, la température augmente linéairement. C'est un état conductif. Il n'y a pas le moindre mouvement. La chaleur est diffusée, est uniquement transférée par diffusion. Que se passe-t-il si maintenant j'augmente un petit peu le nombre de relais et je me place au-delà du nombre de relais critique ? Eh bien, je vois apparaître une première forme de circulation convective. Donc là, une expérience numérique, ici, une expérience analogique. Alors, je vais discuter un petit peu en premier l'expérience analogique. Ce que vous voyez, donc là, je suis en train de regarder ma boîte de nouveau par le dessus. Ce que vous voyez en blanc, ce sont des courants descendants de convection, des courants froids. Ce que vous voyez en foncé, ce sont des courants ascendants chauds de convection. Qu'est-ce qui se passe ? Le fluide monte ici et redescend par là. On a un mouvement dans ma boîte, c'est ce que j'ai représenté ici dans mes expériences. Donc je représente l'isotherme, et on voit des ondulations de ces isothermes, on crée des rouleaux. Si je mets dans mon système une particule, je la mets ici, elle sera chaude, elle va monter parce qu'elle est plus légère. Au fur et à mesure où elle monte, elle se refroidit, elle va se refroidir très vite sous la surface, et puis si elle se refroidit, elle devient plus lourde, donc elle plonge. Et au fur et à mesure où elle plonge, elle va se réchauffer, et ainsi de suite. Donc on a là un mouvement perpétuel sous la forme de rouleau. Ce mouvement n'évolue pas au cours du temps, c'est-à-dire qu'on est dans un régime stationnaire. Stationnaire ne signifie pas que cela ne bouge pas. Les variations, la température, les formes de mes isothermes ne vont pas bouger, simplement si je mets une particule, elle tourne en rond infiniment. Donc il y a bien un mouvement, mais on est dans un régime stationnaire. Alors ce que je représente là, c'est comme précédemment, je fais une moyenne sur les différentes couches horizontales dans ma boîte. Eh bien, on voit se dégager deux ou trois domaines. D'abord ces régions-là, où on a la température qui va varier linéairement, ici, là, et puis une région au milieu de ma boîte, qui est avec une température moyenne constante, qui est la moitié entre la surface et le fond de ma boîte. Quelles sont ces différentes parties ? Eh bien, ici, en haut et en bas, on parlera de couches limites thermiques. Ce sont des régions dans lesquelles j'ai essentiellement de la conduction de la chaleur. Pourquoi ? Je vous ai dit que la chaleur était transférée, je chauffe par en bas, je refroidis par en haut, donc la chaleur est transférée du bas vers le haut. La chaleur, mes surfaces sont des surfaces qui sont imperméables, le fluide ne peut pas passer à travers. Donc la seule manière en surface, ici et sur cette surface-là, la seule manière de faire sortir la chaleur, il n'y a pas de choix, c'est par conduction. Donc ces régions-là, ce sont des régions où on a conduction de la chaleur, on a une couche ici sous la surface, où la chaleur est transférée par conduction, parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour la sortir. De la même manière, en bas, la chaleur sera transférée aussi par conduction. Et au milieu, eh bien, on a une chaleur qui est transférée alors, par advection de chaleur et par conduction. Et c'est un système qui est parfaitement symétrique, il n'y a pas de raison qu'il soit dissymétrique. Tout ce qui se passe pour les courants descendants se passe pour les courants montants. Si par exemple, je prends un courant descendant, je mets une particule, elle passe de 0 à 0,2, de valeur adimensionnelle, j'ai un symétrique de l'autre côté, ma particule elle va passer de 1 à 0,8. Et donc, sur les plans horizontaux, ben, en moyenne, j'obtiens toujours la moitié. Donc, maintenant, si j'augmente encore un petit peu le nombre de relais. Donc là, j'étais à 10, un peu au-dessus de 10 puissance 3. Maintenant, je vais passer à 10 puissance 4, 10 puissance 5. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que, en fait, je conserve ma structure en rouleau. Simplement, eh bien, les rouleaux, les courants montants et les courants descendants deviennent extrêmement fins. Donc je ne fais pas varier pour l'instant la longueur d'onde, j'ai simplement diminué un petit peu l'épaisseur de toutes mes structures, de mes courants montants et de mes courants descendants. Alors, juste un petit commentaire sur la dimension de la boîte, parce que la dimension, je peux faire varier dans ces expériences-là la dimension de ma boîte. Ce qui est important, c'est les rapports entre les distances horizontales et les distances verticales. Imaginez que je prends une boîte qui est cette dimension-là, uniquement, sur cette longueur-là, mais uniquement cette dimension. La longueur d'onde que vous voyez ici, qui est cette longueur d'onde-là, ne peut pas se développer, la boîte est trop petite. Que se passe-t-il dans ces conditions-là? Dans ces conditions-là, de nouveau, je retrouve un état qui est un état strictement conductif. Et ça permet, par exemple, dont je ne vais pas faire le dessin, et ça permet de tracer pour des longueurs d'onde données le nombre de critiques qu'il me faut, le nombre de relais critiques qu'il me faut pour pouvoir développer cette longueur d'onde. C'est exactement comme si je faisais varier la dimension de la boîte. Si je prends une boîte très grande, je n'ai pas de problème, je ne sélectionne pas certaines longueurs d'onde, tout peut apparaître. Donc j'ai le nombre de relais critiques minimum, celui que je vous ai montré. Par contre, si je prends des boîtes beaucoup plus petites, eh bien, je ne peux pas exciter les grandes longueurs d'onde. Elles ne peuvent pas se développer. Je ne pourrai exciter que les petites longueurs d'onde. Pour ça, il faudra que je mette des nombres de relais beaucoup plus élevés. Maintenant, je passe pour un nombre de relais de 10 puissance 6, 10 puissance 7. Donc des nombres de relais beaucoup plus importants. Donc la méthode de représentation n'est pas tout à fait la même. Précédemment, c'était uniquement des isosurfaces. Maintenant, c'est du volume rendering. C'est-à-dire que je montre les volumes et j'enlève certaines parties. Donc là, vous avez une échelle de température. La température varie entre 0 et 1, le froid, le chaud. Et en noir, c'est toutes les parties que j'ai enlevées dans mon modèle. Et ce que vous voyez, eh bien, c'est maintenant, vous n'avez plus du tout cette structure en rouleau. Vous avez une structure en panache chaud de convection. Par exemple, ici, un panache chaud. Et ces panaches sont entourés essentiellement par des courants froids de convection qui forment des plans avec des températures les plus froides à l'intersection, comme ici, à l'intersection de ces plans où on voit le courant froid très puissant qui arrive jusqu'en bas de ma boîte. De nouveau, ici, je garde la symétrie. Tout ce qui se passe pour les courants montants se passe pour les courants descendants. J'augmente encore le nombre de relais. Bien, si vous comptez, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de plumes, par exemple, de panache chaud dans ce modèle que dans ce modèle. Je commence à apporter dans le système de plus en plus de petites longueurs d'onde. Précédemment, j'avais les grandes longueurs d'onde, j'en ai maintenant de plus en plus des petites. La distance, si vous voulez, dans la longueur d'onde dans ce modèle-là, c'est la distance entre deux rouleaux. Non, non, c'est c'est une onde mécanique. Oui, c'est une onde mécanique. J'essaye de décrire un système périodique. J'essaye de décrire un système périodique. Oui, une période. Si je trace sur une ligne horizontale la température, eh bien je vais l'avoir baissée, remontée de nouveau dans un système comme celui-ci. Donc là, si vous regardez la distance entre les courants chauds, la distance est beaucoup plus petite. C'est quelque chose qu'on peut déterminer. On fait des transformées de Fourier qui permettent de calculer, de voir apparaître toutes ces longueurs d'onde. Donc, ce que je vais vous montrer après dans un petit film, c'est ce système-là n'est plus stationnaire, tout bouge. C'est-à-dire si je mets un thermomètre, la température va varier, va fluctuer en permanence à cet endroit-là, alors que précédemment, avec mes rouleaux, ça ne bougeait pas. Ça voulait dire qu'il y avait du mouvement, mais ça ne bougeait pas. C'était stationnaire. Là, mes plumes, elles vont commencer à se balader. Plus j'augmente le nombre de relais, plus ça va se balader vite. On va avoir des chocs de plumes, tout un système turbulent qui se met en place. Je vais continuer à monter, 10 puissance 8 jusqu'à 10 puissance... Oula, je ne sais pas si vous le voyez bien, 10 puissance 9. 10 puissance 8, de nouveau, des toutes petites structures. Et maintenant, 10 puissance 9. Alors ça, c'est la totalité de mon domaine dans lequel je fais les calculs. Comme c'est très difficile de voir quoi que ce soit, ici, vous avez un zoom dans ce domaine. Alors, contrairement au cas précédent, ici, vous regardez la boîte par la tranche. Vous la regardez comme ça. Précédemment, c'était par le dessus, maintenant, c'est par la tranche. Et je ne représente plus que les courants froids, que les courants chauds, pardon, de convection, parce que sinon, on ne pourrait plus rien voir. Et vous avez un système qui est extrêmement turbulent, avec des plumes. Alors, c'est difficile dans ce cas-là de faire un film, parce que ces coûts de calcul sont très importants. Vous avez des plumes qui se rentrent dedans, qui explosent, donc un système qui est extrêmement turbulent. Donc là, on est dans un régime turbulent, des régimes qui sont non stationnaires, et on a fait, en augmentant le nombre de relais, on est passé de régime calme, stationnaire, petit à petit, vers des régimes non stationnaires. Alors, je vous présente maintenant, et je terminerai avec le chauffage par en bas sur ces petits exemples-là, des lois d'échelle. C'est-à-dire, je vais m'attarder ici sur NU, c'est le nombre de Nusselt, qui s'écrit NU2SELT. Ça représente en surface le flux de chaleur dans mon modèle. Ce n'est rien d'autre que le flux de chaleur que j'observe à la surface. Et là, vous avez le nombre de relais. Donc je vais partir de valeurs qui sont inférieures au nombre de relais critiques et je vais monter jusqu'à 10 puissance 7. Je ne vous montre pas ce qui se passe jusqu'à 10 puissance 10. Et ce que je représente, ce sont des échelles log-log. C'est-à-dire, j'essaye de voir les variations du flux de chaleur en fonction du nombre de relais. Et on va s'apercevoir que les points, dans mes expériences, tombent tous pile sur une droite. Ça veut dire que le flux de chaleur varie en fonction du nombre de relais à une certaine puissance qui est cette pente, ici. Alors dans ce cas-là, ça va être un tiers. Cette pente un tiers, elle est déterminée aussi théoriquement en faisant une analyse des couches limites. De la même manière, on peut calculer les variations des épaisseurs de couches limites, comme je vais montrer ici, en fonction du nombre de relais. Pourquoi ? Là-haut, c'est l'énergie cinétique aussi, qui varie en fonction d'une puissance du nombre de relais. Pourquoi cette courbe est intéressante ? Parce que ceci est le flux de chaleur. Ça veut dire que si à la surface d'une planète, je connais le flux de chaleur, je peux remonter au nombre de relais et je peux savoir si ça convecte. L'idée, c'est celle-ci. Un petit commentaire ici sur l'évolution de la température à l'intérieur de mes domaines. Donc là, vous avez, je rappelle que la conduction, c'est une droite. Ici, vous avez un système qui est très légèrement surcritique, juste au-dessus du nombre de relais. Donc vous avez des régions dans lesquelles se fait la conduction qui sont en surface et en profondeur de la boîte, qui sont très importantes. Ici, au milieu de mon domaine, j'ai encore une pente qui est différente de ces modèles-là. Pourquoi ? Parce que dans cette région-là, la conduction est encore très importante par rapport au transfert advectif de la chaleur. Et si maintenant j'augmente le nombre de relais, de nouveau je trouve 0,5. Et puis si vous regardez, je passe à 10,5, 10,6, je pourrais le faire pour 17. Petit à petit, l'épaisseur de mes couches limites va devenir extrêmement faible, de plus en plus faible au fur et à mesure que j'augmente le nombre de relais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces couches limites, ce sont des couches de diffusion de la température. Donc c'est des couches de conduction. Je peux elles-mêmes les déstabiliser. Comme je déstabilise l'épaisseur entière de ma boîte, je peux aussi déstabiliser ces couches limites. C'est ce qui se passe quand on passe dans des régimes qui sont turbulents. Et la conséquence, c'est que, c'est pour ça que je me suis arrêté à 10,6, on ne va pas du tout obtenir les mêmes pentes. On va obtenir d'autres lois d'échelle avec des pentes légèrement plus faibles. C'est-à-dire que plus j'augmente le nombre de relais, je vais apparaître de nouvelles perturbations et à ce moment-là, la convection est beaucoup moins efficace pour transférer la chaleur grâce à ces nouvelles perturbations, grâce à ces déstabilisations des couches limites. Bon. Donc là, ce que l'on vient de voir, c'est du chauffage par le bas. J'ai transféré la chaleur du bas vers le haut. Mais je vous ai dit que sur la Terre, on avait une Terre chaude grâce à un chauffage radioactif, grâce à la chaleur emmagasinée lors de la formation de la Terre. Donc ce que je vais vous présenter maintenant, c'est des expériences dans lesquelles je fais une seule chose, je chauffe à l'intérieur, de manière homogène. C'est-à-dire que je ne chauffe plus par le bas. Il n'y a aucun transfert de chaleur qui se fait sur ma surface du bas. Je chauffe comme si j'avais une répartition homogène des éléments radioactifs. Donc le transfert de chaleur se fait uniquement de l'intérieur vers l'extérieur. Et en gros, je maintiens une surface froide. De la même manière, je peux déterminer un nombre de relais critiques. Je vais me placer en dessous du nombre de relais critiques dans cette expérience-là. De nouveau, je retrouve donc un état d'équilibre conductif. Il n'y a pas de mouvement. J'ai la chaleur qui est transférée de l'intérieur vers l'extérieur uniquement par advection de la chaleur. Là, vous regardez de nouveau des couches en transparent bleu, une couche qui est froide. Ici, une couche en jaune qui est beaucoup plus chaude. Et de nouveau, j'ai des plans horizontaux. Simplement, à cause du chauffage interne, eh bien, la variation avec la profondeur de ma température ne suit plus une droite, mais ça suit une parabole. C'est parce que j'ai un terme source, en fait, dans l'équation de la température. Donc là, de nouveau, pas de mouvement. Je vais me placer au-dessus du nombre de relais critiques. Alors, deux types d'expériences, des expériences analogiques et des expériences numériques simples. Je commence par ces expériences analogiques, donc des expériences de laboratoire. Je pars d'un système dans lequel la température est imposée. Donc, j'ai ce que vous voyez en noir, c'est les courants montants. On le regarde par le dessus. En blanc, vous regardez les courants descendants de convection. Donc, il y a une symétrie rigoureuse qui est parfaite. Donc, ça, ce sont des régimes qui sont instationnaires. Entre les courants montants et les courants descendants de convection. Mettons que c'est un relais D6, comme je vous l'ai présenté. Et ce que l'on fait ici, petit à petit, on augmente le chauffage interne. On rajoute énormément de chaleur à l'intérieur jusqu'à ce que le chauffage par en bas devienne complètement négligeable par rapport au chauffage à l'intérieur. Et donc, ce modèle-là, on dirait qu'il est assez proche d'un modèle où j'ai quasiment que du chauffage interne. Que voyez-vous lorsqu'on augmente le chauffage interne? On voit complètement disparaître les lignes noires. On ne voit plus de courants montants de convection, des courants chauds. On ne voit que des courants, que des lignes blanches, c'est-à-dire des courants froids. Les courants froids de convection sont très puissants. Bon, pour conserver la masse, il y a évidemment un retour. Les courants chauds, eux, sont beaucoup plus diffus. Ils montent de manière diffuse, ils sont plus concentrés dans des panaches, par exemple, ou dans des plans. On a complètement désymétrisé la circulation convective. Il n'y a plus de symétrie entre les courants chauds et les courants froids. C'est ce que je représente ici dans une expérience numérique avec un nombre de relais 10-4, donc un peu au-dessus du nombre de relais critiques. Vous voyez que, donc là, c'est une circulation stationnaire. Là, ce n'était pas le cas. Vous voyez que les courants froids en bleu, on regarde la boîte par le dessus, forment des gouttes froides et que les courants chauds en jaune se localisent entre ces gouttes froides et ils montent de manière diffuse. Vous avez les courants froids qui sont très puissants et les courants chauds qui sont très lents. Comment évolue la température moyenne? Eh bien, on a vu dans l'état conductif et maintenant dans l'état convectif, eh bien, d'abord, première information, on n'a plus de couche limite en bas. Normal, il n'y a plus d'échange de chaleur sur cette surface-là. Donc, normal de ne pas retrouver dans cette partie-là une couche limite en bas. Donc ici, il n'y a que du transport de la chaleur et en haut, on voit apparaître de nouveau une couche limite thermique parce qu'on transfère par conduction la chaleur en surface. Et au fur et à mesure où j'augmente le nombre de relais, je garde mon chauffage constant. Donc que se passe-t-il? Je refroidis mon système. Je suis capable de transférer de plus en plus de chaleur, donc le système refroidit. La température diminue dans mon système. Si j'augmente encore un peu plus les nombres de relais, donc tout d'abord des expériences toujours en trois dimensions, 16, 17, eh bien de nouveau, les longueurs d'onde vont diminuer, c'est-à-dire que si vous comptez le nombre de plumes, vous en aurez beaucoup plus là-dedans que là-dedans. Vous avez des systèmes qui, de nouveau, sont instationnaires, vous avez les gouttes froides qui se baladent. Et là, maintenant, je vous montre pour des... Alors ça, ce sont des modèles en deux dimensions, donc il faut imaginer que tout se passe dans un plan, avec la gravité donc, qui est verticale. Ce que vous voyez se développer... Vous voyez, ce sont ces gouttes froides qui tombent et vous ne voyez pas de courant chaud. En jaune, c'est le froid. En noir, c'est le chaud. On ne voit plus de courant chaud. Tout est très diffus. Tout monte de manière assez diffuse. Et vous obtenez des systèmes qui deviennent de plus en plus turbulents dans ce cas-là. Bon, je vais vous montrer maintenant quelques petits films. Oui ? Je vais y venir dans la seconde partie. La première partie, comme j'ai dit, c'était des valeurs. Là, je vais parler de Vénus et de la Terre ensuite. C'était une approche un peu plus théorique et descriptive de ce que c'est exactement que le transfert de chaleur. Et ensuite, je viendrai à la Terre. Pour vous montrer que cela bouge dans les modèles, on va commencer par ce petit film. Bon, ça prend un petit peu de temps à charger. Je ne pouvais pas l'inclure dans la présentation. Ah, voilà. Donc là, ce que vous voyez en rouge, des courants chauds, en bleu, des courants froids de convection, et vous avez donc là, c'est un régime qui est plutôt lent, vous voyez une magnifique goutte froide qui est en train de descendre, c'est un chauffage par le bas. Donc tout se balade, mais comme c'est un nombre de relais qui est assez faible, eh bien vous ne voyez pas trop de mouvement. Je vous le remonte si vous voulez, encore une fois. Donc vous avez des mouvements qui sont très lents, et ça se balade. Ensuite, je vous montrerai quelque chose qui est un peu plus turbulent. Donc là, c'est l'exemple d'une circulation qui n'est pas stationnaire. La température bouge, les champs de vitesse bougent, la pression bouge dans mon domaine. là, on voit essentiellement les gouttes froides qui tombent. Et qui sont, donc vous avez les courants chauds qui sont entourés par les courants froids, et réciproquement. Ensuite, je vais montrer alors celui-ci. Alors là, on va se balader à l'intérieur. Ah, ah. D'accord, donc ça, il n'a pas envie. C'est Linux, il m'a implanté, il m'a complètement planté. Alors, je reviens sur mes petits films. Ah, zut, pas de conférence. Et ça. Ici. Donc, on va passer à quelque chose. Donc là, je vous montre un petit film que l'on a fait pour un nombre de relais de 10 puissance 8. Donc là, vous voyez, quelque chose, déjà, des toutes petites longueurs d'onde de convection. Et on a un système qui est beaucoup plus turbulent. Donc, vous avez vu, si vous regardez... Si vous regardez ici, vous avez la naissance d'un panache chaud de convection qui démarre et qui arrive sous la surface. Bien. Donc, ceci clôture ma première partie sur la description de la convection. Maintenant, je vais passer à l'application de tout ceci sur des modèles particuliers, sur des exemples particuliers que sont Vénus, la Terre, Io, et je vais aussi vous montrer quels sont les enjeux aujourd'hui de la modélisation et qu'est-ce que l'on cherche à savoir. Donc, tout d'abord Vénus. Donc, ceci est une image radar en fausse couleur de la surface de Vénus. Ça a été obtenu à partir d'une mission Magellan, une mission de la NASA dans les années 90. Donc, le radar, il est sensible évidemment aux longueurs d'onde. Si vous avez des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus. Si vous avez des petites longueurs d'onde, eh bien, ça va paraître en surface de manière très très blanche. Donc on va voir les régions qui sont extrêmement déformées, plissées. Par contre, les régions qui sont lisses, les plaines, ça va apparaître de façon plutôt marron, de façon plutôt noire. Donc ensuite, j'ai mis quelques chiffres pour Vénus. En gros, pour vous dire que ça ressemble étrangement à la Terre. C'est à peu près la même masse, à peu près le même rayon, à peu près la même densité, à peu près la même gravité. Ah oui, là, il n'y a pas l'atmosphère. L'atmosphère a été enlevée. Différence essentielle, pression-température. Pression 90 fois la pression atmosphérique. C'est pas très accueillant comme domaine. Température 750 degrés Kelvin, 480 degrés Celsius. Relativement chaud. Une information, on n'aura pas d'eau liquide. Il fait trop chaud à la surface de Vénus. On a un effet de serre monumental. Donc, avec en plus une atmosphère qui n'est pas très accueillante parce que vous avez pas mal de pluie, d'acide chlorhydrique et sulfurique à l'intérieur. Alors, je vous présente maintenant la topographie de Vénus. Une dernière précision concernant Vénus, il n'y a pas de champ magnétique. C'est à relier à une bizarrerie. Vénus est la seule planète du système solaire qui tourne en sens inverse. Toutes les planètes tournent dans le même sens, sauf Vénus qui tourne en sens inverse. Une autre bizarrerie, elle tourne sur elle-même en 243 jours. Un jour sur Vénus, ça correspond à 243 jours sur Terre. Donc c'est une rotation qui est extrêmement lente. Et pour entretenir, créer un champ magnétique, les forces de rotation sont importantes. Et on n'a pas de champ magnétique sur Vénus, donc c'est probablement relié. Alors, la topographie de Vénus. Donc d'abord, l'échelle n'est pas très visible, mais vous avez jusqu'à 11 km de topographie au pôle nord, c'est Ishtar Terra. Donc c'est une très grosse montagne dont je ne discuterai pas trop. Mais sinon, vous voyez que vous avez une répartition sur l'équateur de montagnes, avec ici, par exemple, une montagne avec, comme on va le voir, un énorme volcan, plus des rifts qui ont une forme en étoile. Une caractéristique de Vénus, c'est son volcanisme. Alors ici, c'est la carte précédente de Vénus, un petit peu décalée, avec tous les points, ce sont des structures volcaniques. Alors il peut s'agir de coulées de lave, il peut s'agir de volcans, de différentes tailles, vous avez des volcans qui font quelques dizaines de kilomètres jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. Donc on voit qu'on trouve des volcans partout, mais avec une densité qui est quand même beaucoup plus importante dans cette région. Et cette région, dans la topographie, bien, c'est la région que l'on va retrouver ici, avec une haute terre et de très gros volcans. Ici, haute terre, donc enfin des reliefs avec des très gros volcans en surface. La deuxième chose que l'on peut remarquer, c'est que ces régions de haute terre sont toutes entourées par des plaines. Tiens, ça ressemble étrangement au modèle de convection que je vous ai montré, où on a des panaches entouré par des courants froids de convection. Donc déjà, c'est une image, on a l'impression que c'est une image d'une convection sous-jacente. Maintenant, est-ce que c'est haute terre et ce volcanisme est traduit la présence dessous de panaches de convection. Ici, ce que je vous montre, ce sont des volcans, ce sont des images radar, où vous avez le sommet du volcan ici et ici, et de magnifiques coulées de lave sur le côté. Donc un volcanisme très important sur Vénus. Pour pouvoir accéder, que ce soit à l'intérieur de la Terre, et en particulier maintenant, dans le cas de Vénus, à l'intérieur de Vénus, on n'a pas envoyé de sismologues dessus, on ne sait pas s'il y a des tremblements de Terre. La seule information que l'on puisse avoir, c'est le géoïde et le champ de gravité. Et je vais vous montrer, comme dans le cas de la Terre, que le géoïde et le champ de gravité sont sensibles à la distribution des masses, aux variations de densité dans le manteau. Et je vous rappelle que bien, si vous avez un courant chaud et un courant froid, vous avez des variations de densité. Donc on doit pouvoir voir une image de la convection. Donc, en introduction, je vous rappelle que la gravité dérive d'un potentiel. C'est-à-dire que le champ de gravité, le vecteur, c'est le gradient d'un potentiel. Ce potentiel, c'est une fonction. Mathématiquement, ce que l'on peut montrer, c'est que le vecteur champ de gravité, G, dont la norme sur Terre, ça vaut 9,81, il est perpendiculaire à toutes les équipotentielles. C'est-à-dire G dérive d'un potentiel, et les zones sur lesquelles le potentiel est constant, c'est perpendiculaire. C'est ce que j'ai représenté là. Si cette zone-là, c'est une équipotentielle du champ de gravité, l'accélération du champ de gravité est tout le temps perpendiculaire. Prenons maintenant ce petit exemple. Je considère des couches successives, par exemple un manteau supérieur, un manteau inférieur, et je mets une anomalie de densité plus lourde. Je mets une région qui est beaucoup plus lourde parce que chimiquement elle est différente ou bien parce que la température est froide par rapport à l'extérieur. Donc ce qui se passe, c'est que cette zone ici, sous l'effet de la force d'Archimède, puisqu'elle est plus lourde, elle descend. Si elle descend, elle crée un mouvement autour d'elle qui va défléchir les interfaces supérieures et inférieures. Je vais tirer vers le bas l'interface du haut et je vais défléchir vers le bas aussi l'interface du bas parce que cette masse descend. C'est le mouvement fluide qui est créé. La conséquence, c'est que si vous vous placez ici, vous avez une certaine accélération du champ de gravité, un certain vecteur. Si je me place à côté, comme j'ai une masse plus lourde sous les pieds, la gravité devrait être plus importante à cet endroit-là. Donc on a une première contribution, c'est ce que j'ai représenté en bleu, ici, de cet excès de masse que l'on a sous les pieds. Pour bien le comprendre, eh bien, si vous avez une masse plus importante, les vecteurs autour de vous, champ de gravité, sont défléchis en direction de vos pieds, et comme en permanence, l'équipotentiel du champ de gravité, qui est le géoïde, doit rester perpendiculaire au champ de gravité, eh bien, vous construisez cette bosse du géoïde. Donc la contribution directe de cet excès de masse, c'est une bosse dans le géoïde. Mais il y a d'autres contributions qui sont la défection de ces interfaces. Logique. Ici, vous avez soit de l'eau, soit de l'atmosphère. La densité en ce point-là est beaucoup plus faible que la densité à côté, si je me place sur un plan horizontal. Par conséquent, ici, c'est l'inverse. J'ai créé un défaut de masse. De la même manière, ici, vous vous souvenez du modèle Prem, où lorsque je m'enfonce, la densité augmente, ce qui signifie qu'ici, la densité est plus faible qu'à la même profondeur à côté. Et donc, je crée là et là des défauts de masse. C'est ce qui est représenté ici. En marron, la courbe du bas, c'est le défaut de masse créé par la déflexion de cette interface. Cette courbe ici, qui est un peu plus faible, qui est moins déformée, c'est le défaut de masse créé par cette déflexion d'interface. Et donc, le géoïde total, la forme que va avoir l'équipotentiel, ça va être la somme de ces différentes contributions avec un facteur d'atténuation que l'on peut comprendre, c'est que plus les variations de la densité sont loin de vous, loin de vos pieds, moins elles sont importantes. Une masse située à l'infini n'exerce aucune force de gravité sur vous. Donc les contributions qui vont être les plus importantes, ce sont les contributions proches de la surface. Et donc généralement, quand vous avez un défaut, vous avez une masse plus importante, ce que vous voyez, ce n'est pas une bosse, mais c'est plutôt un creux du géoïde. Donc vous voyez que ce géoïde, qui est une surface, qui est une équipotentielle, donc une surface en trois dimensions, c'est une sphère, va être déformée par les différentes variations de la densité que l'on a sous les pieds. Ça permet de cartographier les variations latérales de densité. C'est beaucoup plus difficile de cartographier les variations verticales de la densité. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est j'ai un géoïde, c'est-à-dire une surface. Je vais essayer de la représenter, de la cartographier. Donc pour ça, je vais calculer la différence de hauteur entre cette surface et une surface de référence, une équipotentielle de référence, pour une planète que je vais considérer idéale, avec le même facteur de rotation, la même densité, juste pour voir quelles peuvent être, sous mes pieds, les différences de densité au sein de ce manteau planétaire. Et donc, ce que je représente ici, c'est en mètres, c'est les différences de hauteur, les différences, les déformations de cette surface par rapport à une surface de référence. Pour Vénus, bien, c'est presque collé à la topographie vénusienne, où on retrouve de nouveau les hautes terres équatoriales, sur lesquelles on a des courants chauds, sur lesquels on a des volcans très importants. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de déterminer si c'est d'origine convective. Pour cela, je ne vais pas trop rentrer en détail, ce que l'on peut faire, c'est on prend ces zones que je viens de vous montrer, donc que j'ai numérotées, une haute terre, un bout de plaine à côté. Je vais calculer des rapports géoïdes sur topographie et je vais essayer de regarder ce que me donne la même chose à partir de modèles de convection. Et je vais regarder comment je peux coller l'un sur l'autre pour voir si les variations de densité, comment est-ce que les variations de densité peuvent créer dans mes modèles de convection une topographie et un géoïde. Et on s'aperçoit que pour ces zones ici qui sont numérotées, on arrive parfaitement à approximer les valeurs observées, mesurées pour Vénus, avec des modèles de convection. Donc ces régions-là, ça semble bien être des panaches chauds de convection, avec en surface du volcanisme, parce qu'on fond comme pour Hawaï, comme pour l'Islande. Donc ça, c'était le cas de Vénus. Un autre cas particulier, la Lune. Alors la Lune, c'est un petit corps, froid aujourd'hui, parce qu'il n'a pas pu garder sa chaleur. Comme il est petit, il s'est très vite refroidi. Il a peut-être convecté au départ, il y a peut-être eu aussi des éléments radioactifs qui ont permis cela, mais aujourd'hui, c'est un corps froid. Je passe à un autre corps, qui est Io, qui est un satellite de Jupiter. Alors, quelques chiffres, juste pour dire que Io, c'est à peu près la même dimension, le même rayon, la même densité, la même gravité que notre Lune. Lune, satellite de la Terre, Io, satellite de Jupiter. Donc ça, c'est une photo prise par la sonde Galileo, récemment, de la surface de Io. À côté, ce que je vous montre, ce sont des anciennes photos prises en 1979 par les sondes Voyager 1 et Voyager 2. Cette photo-là est très célèbre parce que c'était la première fois que l'on voyait un volcan en éruption en dehors de la Terre. Vous voyez ici, qui a été prise un peu plus tard avec des éjectas, magnifiques éjectas, ici, qui sont en train de retomber. Comment se fait-il que quand on regarde la surface, eh bien, on peut trouver sur Io énormément de volcanisme? Là, ce sont des images de la même surface de Io prises à différents moments. Si vous regardez, là, vous avez une montagne qui vient d'apparaître, avec un volcan au sommet. La même chose ici, on voit une magnifique coulée de lave à cet endroit-là. Et juste, une rotation, le satellite a fait un tour, il est revenu, il a pris la même photo, la surface a changé. Il y a un volcanisme très très important à la surface de Io, qui a la même dimension que la Terre. Donc on s'attendrait à ce que Io soit fondu. Or non. Pour quelle raison? On peut mesurer aussi le flux de chaleur, qui est de 2,5 watts par mètre carré. Alors 2,5 watts par mètre carré, intégré sur la surface de Io, c'est le même flux de chaleur que sur Terre. Donc là, par contre, c'est gigantesque. Pour quelle raison est-ce que c'est un corps chaud? Bien, parce qu'il est déformé, chauffé par les effets de marée très importants exercés par Jupiter. Jupiter exerce des effets de marée solides. Nous, on connaît les effets de marée liquides de la Lune sur Terre, mais Jupiter exerce des effets de marée terribles, et donc il y a une déformation et un chauffage visqueux à l'intérieur de Io. Ce qui explique tout son volcanisme. Donc on est en présence de quelque chose qui ressemble énormément à du chauffage interne, les modèles que je vous ai présentés. Alors, vous vous souvenez des lois d'échelle que je vous ai montrées? J'ai le flux de chaleur, je peux remonter au nombre de relais. C'est ce que je fais ici, et je trouve un nombre de relais de 10 puissance 14. Donc là, c'est gigantesque. Ce sont des valeurs que on ne sait toujours pas à quoi ressemble la convection pour ces régimes-là. C'est quelque chose que l'on ne sait toujours pas faire. Alors, on peut essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je vous présente ici, ce sont des modèles non plus en géométrie cartésienne, mais en géométrie sphérique, ici et en géométrie cartésienne là, pour des très hauts nombres de relais en chauffage purement interne. Donc, les mêmes modèles que ce que je vous ai présenté dans mes boîtes en cartésienne. Donc là, vous avez un noyau, et c'est la convection dans le manteau de Io. Vous avez en bleu les courants descendants, et en rouge les courants ascendants de la convection. Eh bien, ce que l'on voit, c'est une circulation qui déjà est extrêmement turbulente, et de nouveau, on a des courants chauds de convection qui montent de manière assez diffuse. Simplement, ça ne permet pas de rendre compte du volcanisme en surface, où on a des volcans qui sont quand même assez stationnaires au cours du temps. Alors, pour essayer de comprendre cela, on fait des modèles en géométrie cartésienne dans lesquels on va localiser le chauffage interne. Plutôt que d'avoir un chauffage interne qui est identique, homogène dans tout mon domaine, je vais localiser le chauffage interne parce que les effets de marée vont localiser cette déformation, ce chauffage visqueux. Et si je crée ici une région dans laquelle il y a un chauffage plus important que là, eh bien, on arrive à concentrer les courants chauds de convection, et ensuite toutes les oscillations, toutes les ondulations que vous voyez, c'est parce que vous avez un régime qui est extrêmement turbulent. Simplement, le seul problème de ce modèle, c'est que pour un nombre de relais de 10 puissance 14, votre couche limite, elle est extrêmement fine. C'est-à-dire que votre lithosphère, elle est extrêmement fine. Si vous mettez un volcan dessus, le volcan, il fait plouf, il tombe. Ça ne permet pas de maintenir des structures en surface. Donc, c'est certainement pas la manière de voir la convection sur Io. Donc, ce que l'on a proposé, donc ça, c'est pour montrer un peu ce qui se fait aujourd'hui, c'est un transfert de chaleur, je reviens toujours à cette histoire du transfert de chaleur, qui va être différent. Ça part d'un principe simple, c'est que je peux très bien imaginer que si c'est très chaud, ça va être partiellement fondu sous ma croûte, qui elle se refroidit, donc c'est solide, et dessous, c'est partiellement fondu. Le magma est extrait et se refroidit en surface. Donc le magma est généré à cet endroit-là, il monte et se refroidit en surface. Le magma qui monte, il transporte avec lui de la chaleur. J'ai donc transport de chaleur grâce au magma, et le magma se refroidit en surface comme un corps noir, c'est-à-dire les laves sur Terre. Donc je peux très bien faire un modèle dans lequel ma surface du haut, elle est ouverte, c'est-à-dire que mon fluide, il peut monter, descendre, sortir, rentrer de ma boîte. À ce moment-là, je n'ai plus de conduction de la chaleur, mais en surface, je n'ai plus que du transport vertical de la chaleur. Donc là, je vous présente ici une comparaison entre des modèles que je vous ai déjà montrés, dans lequel, donc 100% de chauffage interne, dans lequel je n'ai que du transport conductif, et dans un modèle dans lequel j'ai du transport advectif de chaleur. Ça ne ressemble plus du tout à la même chose. Et ici, en jaune, eh bien, j'ai des courants chauds de convection qui sont très puissants, et en bleu, j'ai des courants diffus, froids, qui descendent, alors que dans ce modèle-là, c'est rigoureusement l'inverse. Les courants qui descendent sont très puissants, tandis que les courants chauds qui montent, eux, sont beaucoup plus lents. Donc voilà un exemple de ce que l'on peut faire aujourd'hui. Maintenant, on en arrive à un objet de prédilection, la Terre. Donc avec des dimensions qui sont, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près la même chose que Vénus. Donc pour répondre à votre question sur le nombre de relais de la Terre, on peut déterminer le coefficient de diffusion thermique, on peut avoir une estimation des variations de température, on connaît la hauteur du manteau, on connaît la conductivité. Simplement, il y a une chose qui est terrible à demander à quelqu'un qui fait une expérience en laboratoire, c'est quelle est la viscosité des roches du manteau ? Aux pressions et aux températures du manteau. Il vous répondra, je ne sais pas faire. C'est des valeurs qui sont impossibles à mesurer en laboratoire, la viscosité d'une roche aux pressions et aux températures, par exemple, du manteau. Alors, pour estimer cette viscosité qui, je vous le rappelle, intervient dans le calcul du nombre de relais de mon domaine, eh bien, il y a une manière qui est de regarder l'effet de la charge exercée par les glaciations, la glace, et ensuite la fonte de ces glaces. Et c'est une manière qui est assez précise, à un facteur 10, de déterminer une valeur moyenne pour la viscosité du manteau. Donc, on a eu des périodes de glaciation où on a eu une charge très importante exercée par la glace qui a défléchi la surface, la croûte, et ça a généré dans le manteau un flux, un mouvement visqueux des roches. En période de déglaciation, la glace a fondu, le manteau est en train cette surface-là est en train de remonter, et donc on a un mouvement en sens inverse, un mouvement visqueux en sens inverse. Les équations de la mécanique me permettent de calculer, en fonction de la viscosité, comment on va remonter cette surface, et on connaît précisément la vitesse à laquelle remonte cette surface. Pourquoi ? Parce que ici, ce sont des lignes de rivage que vous voyez. Donc là, vous avez la mer, à un endroit qui était autrefois chargé par de la glace, qui est aujourd'hui en train de remonter. Et ce que vous voyez, ce sont des lignes passées du rivage, des niveaux d'eau passés. Vous avez cette région-là qui est en train de remonter. Ici, vous avez même une région où la forêt ne s'est même pas encore remise en place. Et donc, on peut mesurer la vitesse à laquelle ça remonte, et on peut déterminer la viscosité. On arrive à la conclusion que la viscosité... Alors là, c'est une autre manière de la calculer. Elle est de 10 puissance 21 pascal par seconde. Donc là, une autre manière, c'est cette diffusée cinématique qui est de 10 puissance 17 mètres carrés par seconde. Et donc si je prends ces valeurs approximatives, ces ordres de grandeur, je rappelle, le delta T de 1000 Kelvin, ce n'est pas les variations de température sur Terre, c'est un ordre de grandeur. J'aurais pu prendre 2500 degrés, j'obtiendrais à peu près les mêmes variations. Eh bien, j'obtiens pour le nombre de relais du manteau terrestre une valeur moyenne de 10 puissance 6. Autant dire qu'on est trois ordres de grandeur au-dessus du nombre de relais critiques déterminés analytiquement. Donc en principe, ça doit convecter dans le manteau de la Terre. Donc quelle est la structure de ce mouvement convectif? Comment est-ce que cela convecte dans le manteau de la Terre? On se doute que c'est un peu différent de Vénus. J'ai oublié de préciser que sur Vénus, il n'y a pas de technique des plaques. Donc on se doute que la technique des plaques va avoir un rôle important. Donc tout d'abord, je reviens au géoïde de la Terre. Donc ce que je vous présente ici, par exemple, c'est cette fameuse équipotentielle dont j'ai parlé, qui est déformée, d'accord, et sur laquelle sont représentées justement ces anomalies. Et ici, c'est une cartographie de ces anomalies. Ce que vous voyez, en gros, pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont deux régions. Ici, vous avez des anomalies positives, donc on s'attend à ce que dessous, d'après ce que je vous ai dit, on ait un courant ascendant de convection. Ici, donc là, vous avez l'Australie, donc un peu au nord, c'est dans le Pacifique, un peu au nord de l'Australie. Ici, vous êtes au niveau de l'Islande, donc deux régions qui sont presque diamétralement opposées. Et ici, sous l'Inde, une région où vous avez une déflexion très importante, a priori, de l'interface, donc un courant froid, on devrait s'attendre à trouver un courant froid de convection, et presque diamétralement opposé, un autre courant, un autre creux du géoïde. Donc là, ce que l'on regarde, c'est uniquement les grandes longueurs d'onde. Donc on devrait s'attendre à trouver dans le manteau des régions ici qui montent, là et là, et ici plutôt des régions qui descendent. Alors, une autre manière de regarder le manteau, c'est la tomographie sismique. Alors la tomographie sismique, la différence par rapport au modèle PREM que je vous ai présenté, le modèle PREM, c'est un modèle dans lequel vous avez uniquement une variation en fonction de la profondeur des grandeurs, telles que la densité. La tomographie sismique, à partir de l'information communiquée par l'ensemble des propagations des ondes sismiques recueillies, on arrive à inverser ceci pour retrouver les variations latérales, ce qui nous intéresse, nous, pour la convection, les variations latérales de la densité par rapport à un modèle de référence, qui est le modèle, qui est par exemple le modèle PREM. Et nous, ces variations latérales de densité sont importantes, comme je vous l'ai dit, parce que la convection, ça marche grâce, le moteur de la convection, c'est des variations latérales de densité. Donc, là, bien, je me place à l'endroit où on avait tout à l'heure une bosse du géoïde. Donc on est dans le Pacifique, c'est représenté sur une sphère. Les petits points rouges, donc la surface blanche transparente, c'est la surface sur laquelle j'ai représenté, mais comme on est dans le Pacifique, on ne le voit pas trop, les continents. Là, vous avez l'Australie, par exemple. La position des points chauds, donc des volcans que l'on connaît, de type point chaud. Et dessous, qu'est-ce que l'on voit? On voit une anomalie négative de propagation des ondes sismiques. Ce qui est représenté en tomographie, ce sont les variations par rapport aux valeurs données par le modèle de référence, donc des variations de vitesse de propagation des ondes sismiques. Et généralement, on les relie à des variations de la densité. Donc là, ce que me dit la tomographie sismique, c'est que je devrais trouver plutôt un courant ascendant de convection, si ces variations sont dues à la température, si ces variations de densité sont dues à la température. Je me place à un autre endroit où j'avais un courant, où je peux trouver, semble-t-il, un courant chaud de convection. C'est une carte locale qui est faite sous l'Afrique, des anomalies de propagation des ondes P. Donc là, on le regarde par le dessus, donc vous avez le Madagascar et le sud de l'Afrique. Et que voit-on? Donc j'ai représenté une isosurface de variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques. Eh bien, on voit une grosse structure. Alors ça ne ressemble pas vraiment à mes plumes, mais on voit quand même une grosse structure d'anomalie sous l'Afrique, qui ressemble étrangement, et ça serait des endroits, si c'est dû à des variations de température, qui sont beaucoup plus légers. Donc un autre endroit dans le Pacifique, là où j'avais ma bosse, je vous ai déjà présenté sur une sphère, là je vous le présente, c'est une représentation locale, là où j'avais ma bosse du géoïde, eh bien de nouveau je trouve des anomalies qui m'indiquent que je devrais à cet endroit-là trouver un courant de convection montant. Dans le Pacifique, non, c'est une bosse, dans le Pacifique.
Pacifique, vous voulez dire la tache rouge
La tache rouge que j'avais ici. C'est une bosse. Ce sont les valeurs positives en mètres. D'accord? Donc là, maintenant, ce que je vous montre, c'est ce qui se passe sous le Japon. Vous avez le Japon. C'est une coupe qui est faite sur cette droite. Ce que vous voyez là, c'est un courant qui descend, la zone de transition, le manteau inférieur, et vous avez une plaque. On arrive à parfaitement imager la plaque de subduction qui plonge. Et donc, tout ceci, donc juste un dernier commentaire sur les autres valeurs que l'on peut obtenir, les autres formes que l'on peut obtenir. Vous voyez la plaque qui plonge ici, mais vous voyez aussi toutes les variabilités, toutes les variations possibles. Ce sont des cartes qui sont extrêmement difficiles à interpréter du point de vue dynamique. Bon, L'information que l'on a, c'est que on a l'impression que les courants chauds montent plutôt au niveau des panaches et que les courants froids, eux, sont localisés exactement au niveau des zones de subduction. Les plaques qui plongent, ce sont les courants froids de convection. Par contre, les courants chauds, c'est plutôt ce que l'on va trouver comme l'Islande, comme Hawaï, donc ces régions chaudes, ces panaches chauds de convection. Tout ceci pour dire que les dorsales en surface, qui sont des endroits où on a des petits courants, c'est extrêmement localisé et c'est très très proche de la surface. Ça ne fait pas venir, ça n'engendre pas des mouvements du manteau, des roches très profondes. Alors je vais, il faut que je termine là. Je vais terminer par les effets du changement de phase sur la circulation convective. C'est pour m'amener au problème qui commence à être ancien maintenant, de la structure de la convection en une ou deux couches dans le manteau de la Terre. Pourquoi ce problème ? Eh bien, donc là, ce que je regarde uniquement, c'est la propagation des ondes P et S dans le manteau, manteau supérieur et manteau inférieur. Donc on voit qu'on a une transition ici, mais on en a une autre à 410 km de profondeur. À quoi correspondent ces différents changements de phase, ces discontinuités que l'on voit dans la vitesse des ondes sismiques, dans la densité ? Eh bien, ça correspond à des changements de phase cristallographiques. Par exemple, à 410 km, vous avez une réorganisation des atomes au sein du cristal. Par contre, à 670 km de profondeur, vous passez d'une olivine à une pérovskite plus une magnésofustite. Et ces réactions-là, ce qu'on peut montrer, c'est qu'elles elles suivent, dans un diagramme de phase pression-température, elles suivent des droites, comme ceci, qui ont une pente, qui est la pente que l'on appelle pente de Clapeyron. Ça veut dire que si j'ai cette température-là, le changement de phase aura lieu à cette pression, c'est-à-dire à telle profondeur. Là, on est en surface, là, on est au fond du manteau. Donc, quel est l'effet dynamique de ces changements de phase? On voit tout de suite que si j'ai un courant chaud, en rouge, il va se produire à une pression supérieure. Ça, c'est dans le cas d'un changement de phase exothermique, celui que l'on trouve à 410 km de profondeur. Eh bien, j'ai représenté cela ici. Donc, pour la température moyenne du manteau à 670 km de profondeur, mettons que l'on soit à peu près par là, et à cette pression-là. Donc ici, c'est mon manteau supérieur et mon manteau inférieur. Et donc ce point-là, en fait, c'est cette surface-là, c'est cette ligne ici. Si j'ai un courant chaud de convection qui monte, le changement de phase doit se produire à une pression plus élevée. Si j'ai un courant chaud qui monte, le changement de phase se produit à une pression plus élevée, c'est-à-dire il se produit plus bas dans le manteau. L'interface du changement de phase est défléchie vers le bas. Or, je vous rappelle que la densité au-dessus est plus faible qu'en dessous. Ça veut dire qu'ici, vous avez localement une densité plus faible qu'à côté. Vous avez une variation latérale de densité qui s'ajoute, et comme ici c'est plus faible, vous avez une force d'Archimède qui tire vers le haut, donc qui favorise la convection à travers cette interface. De la même manière, pour un courant descendant, là, il est plus froid, il aura lieu à une pression plus basse. Mon courant froid de convection qui descend aura lieu à une pression plus basse. Je défléchis vers le haut l'interface. Et donc, j'introduis dans le milieu 1, du milieu 2 de densité plus forte. Je favorise de nouveau, j'accélère en quelque sorte, le mouvement. Maintenant, si je prends un changement de phase endothermique, c'est-à-dire que là, vous aviez une pente positive, maintenant, j'ai une pente négative. Ça, c'est le changement de phase à 670 km de profondeur. Eh bien, que se passe-t-il? De nouveau, je prends un courant chaud de convection, il monte. Le changement de phase va avoir lieu à une pression plus faible. Mon courant chaud de convection monte, le changement de phase a lieu à une pression plus faible, plus haut dans le manteau. Qu'est-ce qui se passe? J'introduis du milieu 2 dans le milieu 1. Or, le milieu 2 est plus lourd que le milieu 1. Donc, j'ai une force en sens inverse qui s'oppose. Le mouvement est vers le haut, mais du fait des déflexions des interfaces, j'ai une force en sens inverse qui s'exerce et donc qui s'oppose au mouvement. Mon courant chaud, il a de moins en moins envie de traverser mon interface. De la même manière pour le courant froid de convection, lorsque, pour cette température-là, le changement de phase a lieu à une pression plus élevée, mon courant froid de convection, le changement de phase a lieu à une pression plus élevée, j'introduis du milieu 1 plus léger que le milieu 2, j'ai une force en sens inverse qui s'oppose. Donc, pour un changement de phase endothermique, je ne favorise pas le passage des courants montants et descendants à travers cette interface, parce que j'ai des forces en sens inverse qui s'opposent. Quelle est la conséquence sur la dynamique ? Ce que je vous présente ici, c'est le problème qui a intéressé longtemps les personnes qui cherchaient à savoir si la convection avait lieu en une ou deux couches à cause du changement de phase à 670 km de profondeur en particulier. Donc, ce sont des modèles dans lesquels l'effet des changements de phase à 410, à 670 km de profondeur sont pris en compte. Ce sont des modèles dans lesquels les variations de la gravité, de la densité, de pas mal de paramètres comme le coefficient de dilatation thermique sont collés au modèle PREM pour essayer d'avoir un modèle qui soit assez proche de la Terre. Et ensuite, je vais jouer sur l'amplitude de ma pente de Clapeyron à 670. Si la pente de Clapeyron est faible, les effets seront faibles. Si la pente de Clapeyron est très importante, les effets seront très importants. Eh bien, donc je chauffe par en bas, je refroidis par en haut. Donc là, vous avez, c'est le même modèle, mais vous le voyez par le dessus, là, vous le voyez par la tranche. Eh bien, vous voyez traverser l'épanage parce que j'ai une pente de Clapeyron qui est plutôt faible. Et vous avez tout un tas d'instabilités qui se développent dans le manteau supérieur et qui vont se concentrer et pénétrer dans le manteau inférieur. Si maintenant, je prends des pentes de Clapeyron plutôt fortes, eh bien, ce que vous avez, c'est une convection en deux couches. Vous avez le courant chaud qui monte, mais qui est arrêté à 670 km de profondeur, il ne peut pas traverser. Donc si je regarde quelle est la convection, je m'aperçois qu'elle tourne ici. Et en haut, vous avez aussi des courants froids donc, qui descendent, et vous avez des panaches qui démarrent de l'interface à 670 km de profondeur. J'ai collé, vous voyez cette isotherme verte, j'ai collé une couche limite à 670 km de profondeur, ou à travers laquelle je n'ai que de la conduction. Alors pour les valeurs réalistes du changement de phase pour la Terre, c'est plutôt ça que l'on n'arrive pas à stratifier. Il est très difficile de stratifier le manteau de la Terre. Et on a vu qu'on avait les plaques qui, quand même, généralement, traversaient et plongeaient dans le manteau inférieur. Voilà. Mais pour laisser un peu de temps à la discussion, je vais m'arrêter là. Je vous remercie.